Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Donner l'ancien hôpital Royal Victoria et une partie du Mont-Royal à l'Université McGill, c'est une bonne chose pour ma prochaine invitée, c'est Jennifer Macaron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée de Westmount-Saint-Louis du Parti libéral du Québec, mais vous êtes aussi la marraine du projet de loi privé 219, loi concernant un immeuble situé sur la rue University à Montréal. Et donc, c'est le Royal Vic. Êtes-vous contente que le gouvernement de la CAQ, finalement, vous appuie dans ce projet-là là, de donner le Royal Vic à McGill?
Bien, je veux juste corriger une chose. Oui, je suis contente qu'on y va vers l'avant avec une adoption éventuelle du projet de loi 219, mais ce n'est pas un projet de loi qui va remettre une propriété du site de l'ancien hôpital Royal Victoria à l'Université de McGill. Aucune disposition du projet de loi n'opère un transfert de propriété. Le projet de loi permettra cependant au CUSUM de se départir du site en faveur de la SQI, la Société québécoise d'infrastructure, un organisme quand même public mandataire de l'État.
OK. Alors, pourquoi les opposants à ce projet de loi-là, j'avais Pascal Bérubé en première partie de l'émission, disent que c'est un transfert de propriété? Est-ce qu'il ment?
Ben, c'est pas une question de mentir. Peut-être que c'est une question de mécompréhension de ce que nous sommes en train de faire dans le projet de loi actuel. Je pense que aussi, ce qui est important de comprendre dans le projet de loi, c'est un acte de donation qui était fait dans le passé qui prévoit que les immeubles font l'objet des restrictions. Ça, c'est un don qui était fait, mon Dieu, si je m'abuse, en 1891 par George Stephen Baronet et Donald A. Smith qui a fait un don. Mais malheureusement, quand ils ont fait le don, c'était déterminer l'usage des lieux uniquement pour des fins de la santé. Alors, il y a une restriction d'usage aux charges, il y a des stipulations de inaliénabilité et de insaisissabilité. Je m'excuse si je prononce ça pas bien.
Non, c'est correct.
Alors, ce que le projet de loi 219 va faire, c'est d'ouvrir les possibilités d'usage de les lots en question pour être en mesure de faire des choses pour l'éducation, pour la recherche.
Oui, je vois ça. À la page 5, là, c'est écrit qu'il est notamment envisagé que l'Université McGill occupe une partie du site Royal Victoria, à des fins d'enseignement, d'apprentissage et de recherche. Donc, c'est quand même l'université qui va occuper le site.
Sous l'œil de la Société québécoise de l'infrastructure, qui est en charge de toutes les prochaines étapes en ce qui concerne l'usage du site. Alors, parce que là, il vient tout juste de terminer la consultation publique. Alors, maintenant que ça vient de terminer juste la semaine passée, la SQI vont évaluer tous les propos qu'ils ont reçus, incluant ceux qui ont été déposés par les citoyens du comté. Puis on verra prochainement ça va être quoi l'utilisation du site. Avant le dépôt du projet de loi 219, j'ai quand même travaillé beaucoup avec les acteurs sur le terrain pour s'assurer que ce site ne développera pas en condo, par exemple, ou hôtel, parce que c'est pas ça qu'on veut non plus, puis c'est pas ça que les citoyens de Westmount-Saint-Louis voulaient. Alors, j'ai pris le soin d'amender le PLIP que j'ai déposé pour s'assurer qu'il y avait quand même une clause pour s'assurer que ça va jamais devenir un site privé ou pour la privatisation de ces lots au profit des développeurs, par exemple.
Ah,
alors,
okay.
Je trouve que ça, c'est quand même une bonne chose que nous avons faite ensemble.
OK. Donc, que le gouvernement, je reviens avec ma question, que le gouvernement vous appuie, vous devez être content, parce que c'est un gouvernement dit nationaliste qui veut protéger la langue française, il aurait pu rechigner, donc vous devez être contente.
Ben, je suis contente que nous allons appuyer un projet qui va quand même être pour le bien commun. C'est tout ce qu'on fait en ce qui concerne santé et éducation. Je pense que vous êtes d'avis avec moi, M. Robitaille, que c'est bon pour tout le monde. Puis c'est très important on peut pas nier en ce qui concerne les étudiants aussi qui sortent de l'Université McGill. C'est juste que ça fait sujet de beaucoup de discussions. Mais même M. Saint-Paul Plamondon, il est diplômé de l'Université de McGill, ainsi que Véronique Yvon, qui sont allés à l'Université de McGill. C'est quand même très intéressant de penser qu'on va sortir des très bons députés et des gens qui vont nous aider à avoir des bons débats, des débats en ce qui concerne le futur de notre belle province. Mmh. Puis je sais qu'il y a aussi un questionnement en ce qui concerne est-ce qu'on va aussi subventionner les universités anglophones. Mais je pense que c'est aussi important que les écouteurs comprennent que tous les universités sont financées sous la même formule, qu'ils soient anglophones ou francophones. Alors, le montant associé à un étudiant est le même s'il fait son droit à McGill ou à l'Université de Laval. Puis, j'ai aussi entendu M. Bérubé qui dit, ben, McGill, il reçoit beaucoup, beaucoup de dons. Mais que l'Université McGill reçoit des dons privés, oui, j'en suis. Puis, je suis reconnaissante de ça. Mais toutes les universités peuvent en recevoir. Mm-hmm. Alors, je pense pas que c'est une base de justification pour laquelle nous n'avons pas donné quelque chose à une université ou l'autre.
Mais votre parti a appuyé, finalement, le nouveau constat du gouvernement de Justin Trudeau que c'est la langue française qui est en danger à Montréal. Et donc, est-ce que ça n'aurait pas été une occasion de combattre le déclin du français à Montréal en donnant ça, ou bon, vous dites que c'est pas un don, mais en permettant à une institution francophone, l'UQAM, qui tire le diable par la queue, l'Université de Montréal, qui a ses difficultés aussi, d'occuper cet espace-là?
Comme vous l'avez dit dans le début de votre questionnement, ceci ne représente pas un transfert de propriété. Du tout. Là, on parle d'un changement de restriction à l'intérieur d'un don qui a été fait. Ça fait longtemps. Oui, tout à fait. Je sais que comme députée de Westmont-Saint-Louis, je dirais que tous mes citoyens sont pour la protection de la langue française. C'est très important. C'est une question dont nous devons tous être préoccupés. Mais de dire qu'on va changer la désignation d'un bâtiment qui est lié à McGill, de l'ancien site de l'hôpital Royal Victoria, je pense pas qu'on est en train de mettre le français en péril.
Oui, mais vous comprenez, Mme McCarron, quand on regarde les minorités francophones à l'extérieur du Québec, je pense à celle en Alberta avec le campus Saint-Jean, avec la petite université ontarienne qui vient d'être créée de peine et de misère. Quand on compare ça aux universités anglophones, l'anglais étant la langue non seulement dominante au Canada, mais dans le monde entier, là, c'est comme si on venait aider la langue dominante constamment dans notre métropole. Est-ce que s'il n'y a pas une contradiction là-dedans?
Ben, je dirais que je pense que ma collègue Hélène David, elle a quand même déposé des recommandations en ce qui concerne une vision que nous avons comme Parti libéral pour la protection de la langue française.
Oui.
J'appuie les
27 points.
Les positions. Oui, exactement. Puis ça aussi, elle avait fait des propos en ce qui concerne les universités, par exemple, d'avoir un lieu puis un pont classement pour le OQLF sur les sites des universités pour aussi accompagner les étudiants qui viennent d'ailleurs apprendre le français. C'est sûr, c'est regrettable que ce qui arrive présentement en ce qui concerne un programme intensif d'enseignement du français a peut-être pas pris de l'ampleur comme ils auront voulu à l'Université de McGill. Mais c'est suspendu, il faut d'un nombre insuffisant d'inscription. Alors, en espérant qu'on va avoir plus de gens qui vont vouloir apprendre puis de s'immerser, je peux vous dire comme anglophone, moi, je suis tellement fière d'être québécoise. Je suis tellement fière
ben
de
oui.
pouvoir contribuer. C'est une richesse. Alors, je sais que je ne suis pas seule à avoir cette vision.
Je comprends, mais il y a un chercheur comme Frédéric Lacroix qui dit que ça va consolider cette occupation-là de McGill, du Royal Vic. Ça va consolider McGill comme université hégémonique à Montréal, puis le recul du français va en découler. Vous n'avez pas cette impression?
Pas avec le projet de loi d'intérêt privé 219. C'est pas ça qui va arriver. Moi, je suis persuadée que nous devrons convaincre la population avec des carottes et non des bâtons, parce que c'est une belle langue, c'est notre langue commune.
Ça aurait pas été une belle carotte d'avoir une université francophone à cet endroit-là?
Mais à ce que je connais, contrairement en fond, ça faisait des années depuis que le bâtiment était vide. Puis faut aussi pas oublier que ça va prendre quand même des sous, hein, à entretenir le bâtiment, à l'amener à une place où on va pouvoir accueillir des personnes. Il y a des rénovations, il y a un investissement matériel très important à avoir. Pas tous les universités qui avaient un intérêt à poursuivre. C'était vraiment vacant pendant très longtemps. L'université McGill a dit, OK, ben oui, on aura peut-être un intérêt. Puis on dit qu'on va assumer tous les frais associés avec ceci. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de points qu'il faut prendre en considération en ce qui concerne les lots dans le projet de loi 219.
Sur le projet de loi 96 maintenant, sur la langue, vous avez parlé de la langue. Là, je regarde le QCGN qui a publié un tweet il y a quelque temps qui dit « problématique, odieux, antidémocratique, ce n'est que quelques-uns des termes utilisés par de nombreux groupes communautaires anglophones du Québec pour qualifier le projet de loi 96. Ça va être difficile de ne pas voter contre ce projet de loi. J'imagine que vous allez voter contre.
Ben, on n'est pas rendu à l'étape de dire on va voter contre ou on va voter pour. Hein? On vient tout juste de commencer l'étude détaillée dans le projet de loi. C'est un projet de loi, je pense, qui peut être bonifié. Vous connaissez notre position. Comme membre de la communauté anglophone, évidemment, je suis très sensible aux enjeux, l'impact sur la communauté anglophone, entre autres, c'est quoi la définition d'un anglophone historique dans la province du Québec. Je raconte souvent l'histoire de ma mère qui est venue ici d'Ontario. Elle était uniquement anglophone. À 17 ans, elle a déménagé ici. Pourquoi? Parce qu'elle voulait apprendre le français, puis elle voulait contribuer à notre société. Elle est devenue infirmière. Elle a appris le français. Elle a marié un francophone. Elle a eu 3 enfants. Mon père, qui est un ancien sergent détective de crimes majeurs pour le SPVM, mais elle n'est pas, compte pas dans la catégorie de anglophone historique. Alors, il y a quand même des craintes pour quelqu'un comme elle, puis avoir accès à des soins de santé.
Non, mais ça a été nié. Ça m'a été démontré qu'il n'y avait aucune crainte à avoir.
Mais c'est pas écrit en noir et blanc dans le projet de loi. C'est pas écrit.
Oui.
Puis on peut pas nier qu'il y a des gens qui ont des préoccupations. Cela étant dit, il y a plein de places où je pense que nous pouvons bonifier le projet de loi. On devrait avoir des débats.
Oui.
On devrait pas aussi, j'espère que le gouvernement va pas l'adopter sous baillon. Je pense qu'il y a plein de communautés qui ont quelque chose à contribuer. Parce que, pour vrai, c'est très sincère, M. Robitaille. Je veux protéger la langue française. Je veux contribuer à ceci. C'est une belle culture. Je pense que c'est de notre force. Faut faire ça vraiment.
C'est notre langue commune.
Avec les communautés vraiment qui concernées, qui peuvent aussi contribuer.
Mais ça doit être difficile de défendre le projet de loi 96 ou certains de ses aspects face à une population qui, en tout cas des militants anglophones qui disent que c'est problématique, odieux et antidémocratique. Est-ce que c'est difficile pour vous? C'est difficile pour vous?
Je dirais oui, c'est difficile parce que j'ai de la peine pour les gens qui se sentent vraiment visés. J'ai de la peine pour les gens qui se sentent pas en sécurité. J'ai vraiment envie de les protéger.
Est-ce qu'on s'entend qu'il n'y a pas des inquiétudes exagérées?
Ben, c'est très subjectif. On peut pas dire ça. Je vis pas dans la vérité ou la vie d'une personne qui a 80 ans, par exemple, qui est unilingue, anglophone, qui habite en province depuis toutes ces années-là, qui a contribué, qui a maintenant peur de pas avoir accès.
Mais oui, mais c'est sûr que quand il y a des militants qui disent que c'est qu'on va faire une nouvelle Gestapo, comment voulez-vous que ces gens-là n'aient pas peur? Est-ce que c'est pas à vous, représentants de la communauté, de dire ça, c'est des fausses nouvelles? Ce que disent ces gens-là, c'est faux. C'est comme les gens qui disent que les vaccins tuent ou c'est du même ordre.
Jamais je vais prendre la place et dire aux organismes communautaires comme QCGN quoi dire ou comment le dire. Je pense que ils ont une voix, puis c'est ça la démocratie, c'est d'être à l'écoute, puis de s'assurer qu'on prend en considération tous les points de vue. Okay. Je pense que ça, c'est mon rôle comme député.
Mais quand ça va trop loin, moi j'entends quand ça va trop loin, quand ça va manifestement trop loin.
Mais c'est ça, c'est très subjectif. Comme j'ai dit, je marche pas dans les souliers d'une personne qui a véritablement peur de son futur. Je pense que ça mérite être aussi sensible à ces personnes. Je vous donne un autre exemple très personnel. Moi, mes enfants, vous connaissez, mes enfants sont handicapés. Ils sont pas bilingues. Ils maîtrisent pas aussi l'anglais. Ils ont des déficits de langue. Ils vont trouver un emploi ici, M. Robitaille, si ça me tue, là. Ils vont contribuer à notre société. Puis je veux que, tu sais, qu'on adopte une vision inclusive, parce qu'ils méritent de le faire, c'est leur chez eux. Mm-hmm. C'est mon chez moi. Puis ils sont bien ici, ils sont heureux, ils sont des Québécois. Mais j'ai des craintes pour eux. Ça va être quoi l'impact sur eux? Est-ce que je saute? Est-ce que je dis que c'est un Gestapo? Non, mais je peux comprendre les gens. C'est très émotionnel. C'est très, très, très émotionnel. Fait que moi, je vise toujours de la compassion, une bonne écoute, puis d'essayer de travailler en équipe pour s'assurer qu'on représente tous les Québécois et Québécois.
Merci beaucoup, Jennifer McCarron.
Mais ça m'a fait grandement plaisir. Bonne journée à vous.
Au revoir. Députée de Westmount-Saint-Louis du Parti libéral du Québec.